RFI 23h à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal consacré à l'actualité française.
Charlotte de Rouen.
J'ai fait tout ce que je devais faire quand j'étais ministre, répète François Bayrou, le chef du gouvernement qui a rencontré aujourd'hui des victimes de violences sexuelles dans le collège-lycée de Bétaram, dans le sud-ouest de la France. À Paris, des centaines de personnes ont manifesté ce samedi pour soutenir les jeunes migrants qui occupent le théâtre de la Gaîté Lyrique. La justice leur a demandé d'évacuer les lieux d'ici un mois. La journée de lutte contre les cancers pédiatriques et cette enveloppe de 15 millions d'euros pour la recherche, finalement sauvée dans le budget 2025 de l'État. Et puis en Ligue 1, l'Olympique de Marseille étrille Saint-Étienne 5 buts à 1, troisième victoire de rang pour les Marseillais.
RFI.
Le Premier ministre sous pression dans l'affaire des violences sexuelles commises au sein du collège-lycée de Bétaram à une vingtaine de kilomètres de Pau. François Bayrou a échangé longuement aujourd'hui à Pau avec 9 des 112 victimes qui ont porté plainte pour agression ou violence sexuelle. François Bayrou, ministre de l'Éducation nationale dans les années 90, a assuré avoir fait tout ce qu'il devait à l'époque, évoquant notamment une inspection générale de l'établissement qui avait donné lieu à un rapport rassurant. Mardi et mercredi, pourtant, le Premier ministre avait assuré ne pas être au courant de ces plaintes déposées à l'Assemblée nationale. Certains députés l'accusent donc d'avoir menti et réclament sa démission. Retour sur cette affaire avec Aram Beng.
L'affaire est partie du journal d'investigation Mediapart qui affirme que François Bayrou était bel et bien au courant des plaintes pour agression sexuelle qui auraient été commises au collège-lycée de Bétaram entre 1970 et 1990. Selon les médias en ligne, l'actuel Premier ministre aurait été informé de ces plaintes à plusieurs reprises quand il occupait le ministère de l'Éducation nationale à l'époque. Une première fois en 1996 par le biais d'une professeure qui lui aurait fait part du climat violent qui règne dans cet établissement privé catholique. Autre événement qui ne pouvait pas être ignoré du ministre selon Mediapart, le dépôt d'une plainte en 1996 contre un surveillant du collège-lycée pour des faits de violence. En 1998, le ministre est informé par un juge d'instruction de la mise en examen pour viol du directeur de l'établissement. Et en mars 2024, un septuagénaire reconnu victime de viol à Bétaram par l'Église adresse un courrier à François Bayrou dans les lequel il demande au maire de Pau de ne plus ignorer les témoignages des victimes.
Des victimes que François Bayrou a rencontrées donc aujourd'hui, le Premier ministre qui a promis plus de moyens dans cette affaire, indiquant qu'il allait demander des magistrats supplémentaires pour aller au bout de l'enquête. Alain Esquer est le porte-parole de l'association des victimes de Bétaram. Il a pris la parole à l'issue de la rencontre aujourd'hui.
Monsieur le Premier ministre, entendez comment ça fait mal à chacun de nous de nous retrouver ici pour dénoncer l'omerta, le non-dit, l'hypocrisie d'un système qui nous a broyés. Entendez dans ces lieux la souffrance de tous ces enfants, ceux de Bétaram, mais aussi des 5 millions de Français qui ont connu les ténèbres et qui vous obligent à agir. Entendez ces cris indélébiles qui resteront à jamais gravés au fond de nos tripes. La violence envers les enfants n'a pas de visage, mais elle doit être combattue partout dans tous les foyers de France. C'est notre responsabilité collective de se nourrir de ce scandale de Bétaram et de s'en servir comme d'une opportunité formidable pour changer notre façon d'agir auprès de toutes les victimes de violences.
Alain Esquer, le porte-parole de l'Association des victimes de violences sexuelles à Bétaram.
24 heures en France.
Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, candidat à la présidence des LR face au chef des députés républicains, Laurent Wauquiez, promet que ce duel ne sera pas un match sanglant. Les différences de fond se régleront dans les urnes, indique-t-il dans une interview au Parisien, alors que l'entourage de Laurent Wauquiez l'accuse d'avoir lancé une guerre des chefs en présentant jeudi sa candidature. Il répond, pour faire la guerre, il faut être deux. Le locataire de la place Beauvau, qui bénéficie d'une forte popularité, est dit vouloir convaincre autant les électeurs du RN que les macronistes. À Paris, le théâtre de la Gaîté Lyrique, occupé depuis plus de 2 mois par 300 jeunes migrants non accompagnés, sera-t-il évacué d'ici 1 mois? Jeudi, la justice a rendu une décision en ce sens. En réaction, un rassemblement était organisé aujourd'hui dans la capitale, organisé par le collectif des jeunes du parc de Belleville. Ils réclament une reconnaissance de leur minorité, un logement digne et l'accès à la scolarité. Écoutez ces Parisiens venus soutenir les mineurs isolés.
C'est important parce que cette lutte, ça fait plusieurs semaines. Ils sont très très mobilisés, ils ont besoin de beaucoup de soutien. C'est-à-dire des mineurs qui demandent un toit, qui demandent le droit à l'éducation, le droit à l'accès à la vie. Et j'ai envie de dire, ça devrait aller au-delà de ça. En plus, c'est un lieu sur la culture. Donc voilà, on dépasse normalement les droits juste de se nourrir un toit, mais avoir accès à la culture, avoir accès à l'éducation. Voilà pourquoi c'est très très important de continuer à les soutenir.
Aujourd'hui, c'est important pour moi de les soutenir, mais plus largement de faire un front antiraciste révolutionnaire contre ces idées nauséabondes que sont les idées de l'extrême droite.
En fait, on est là pour le droit à l'hébergement, le droit à la reconnaissance de minorité et à la présomption de minorité, le droit à la scolarisation, le droit à la santé.
Ce mardi marquait la journée internationale de lutte contre les cancers pédiatriques. Chaque année en France, près de 2300 enfants et adolescents en sont atteints. Il y a une semaine, les 15 millions d'euros de budget dédiés à la recherche sur les cancers pédiatriques avaient été abandonnés. Face aux critiques, le gouvernement a finalement fait marche arrière. Alors, faut-il sanctuariser cette partie dans le budget, cette enveloppe? Comment doit-elle être utilisée? Élément de réponse avec Catherine Vergely, elle est secrétaire générale de l'Union des associations de parents d'enfants atteints de cancer.
Il faut structurer ces recherches, c'est-à-dire qu'il faudrait surtout qu'il y ait une vraie stratégie sur les cancers de l'enfant. Et que donc, avec des objectifs précis, on a une enveloppe qui n'est pas finalement trop sanctuarisée parce que du coup, elle pourrait être limitée, mais qu'en fonction des objectifs qui sont dans cette stratégie, on puisse avoir régulièrement une somme qui soit allouée pour développer ce qui est important. Par exemple, il va falloir développer des projets avec l'intelligence artificielle, il va pouvoir des projets avec des nouvelles thérapies qui sont pour le moment pas accessibles aux enfants. Il faut financer des recherches qui soient complètement destinées aux enfants et non pas de dériver des projets de recherche de l'adulte sur l'enfant. Parce que les sujets sont pas les mêmes, les développements sont pas les mêmes, les tumeurs ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut vraiment avoir une recherche de précision bien centrée sur les cancers de l'enfant.
Des propos recueillis par Marius Roland. En Savoie, 2 morts dans une avalanche sous le col de l'Iseran. Les 2 victimes faisaient partie d'un groupe de 5 randonneurs. 3 rescapés ont été pris en charge par les secours. Les récentes chutes de neige combinées à des vents forts rendent le manteau neigeux particulièrement instable sur plusieurs secteurs selon la préfecture de Savoie qui appelle donc le public à prendre des précautions nécessaires et à suivre les conseils des professionnels pour sortir en montagne. Un peu plus tôt dans la journée ce samedi, toujours en Savoie, une première avalanche avait tué une randonneuse à ski de 30 ans et blessé grièvement 2 de ses compagnons. En football, en Ligue 1, l'OM enchaîne une 3e victoire de rang. Et quelle victoire ce soir, 5-1 face à la Saint-Étienne sur la pelouse du stade Vélodrome. Parmi les buteurs de la soirée, Adrien Rabiot, l'international français, qui figure parmi les cadres, sans que son équipe est désormais sur un rythme de croisière.
C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on essaye de mettre en place depuis le début de la saison. Forcément, ça a pris un peu de temps au début, tout mettre en place, à se trouver. Là, on voit que de journée en journée, ça va mieux. On est patient dans le jeu. On arrive à scorer. Bon, ce soir, on prend un but. C'est un peu dommage, mais on a complètement eu le match en main. On a tout bien fait, je pense. Et voilà, on prend du plaisir sur le terrain. Et c'est ce que demande le coach, qu'on arrive à faire. Donc c'est bien, je suis content. On s'entraîne à 100% pour jouer les matchs à 100% le week-end. Et jusqu'à la 90e, c'est ce que ça donne. Et c'est important de le faire comme ça. Faut continuer avec cet état d'esprit.
Adrien Rabiot au micro de nos confrères de Bing Sport. Ce soir, Monaco l'a aussi emporté très largement 7-1 face à Nantes. La SM qui fait le plein de confiance entre ces 2 matchs contre le Benfica en Ligue des Champions. Et puis Paris s'impose à Toulouse 1-0 et reste largement leader au classement de Ligue 1. Un mot de rugby aussi avec cet exploit du RC Van qui s'est imposé sur la pelouse du Racing 92, 30-25. Les deux équipes se sont livrées une bataille bataille acharnée. Les Bretons reviennent donc à 3 points des Franciliens au classement de top 14.